cours des philosophies premières, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 15 avril 1999, à Saint-Jodard.
Hardiment, les cours, dans la perspective, Pascal, on pense tout de suite à qu'est-ce que c'est que la personne pour un corps glorieux. On le verra au terme, en dehors de la perspective métaphysique. Je vous rappelle comment, dans quelle lumière nous faisons ce cours sur la personne. C'est au terme de la métaphysique, après avoir découvert les principes propres de ce qui est en tant qu'il est, que nous essayons de découvrir comment l'être se présente à nous. Vie. Et s'organise, je dis bien s'organise, comme une personne. Quand cette vie devient spirituelle, parce que l'animal le plus parfait ne s'organise pas en personne. Des très beaux singes ne sont pas des personnes. Des très beaux petits cochons ne sont pas des personnes. Ils sont des troupeaux. Il arrive quelquefois que l'instinct grégaire fait que la personne disparaît devant l'individu. Ce sont des individus, petits cochons. Et le singe aussi, c'est un petit individu, et quelquefois même assez pesant. La personne est une conquête sur la matière, constamment. C'est l'esprit, c'est la victoire de l'esprit. La personne, c'est la victoire de l'esprit. C'est la victoire de l'esprit qui se manifeste à nous. Il se montre à nous. Parce que ça se voit une personne. Mais ça se voit. Et en même temps, ça ne se voit pas. C'est très curieux. Ça se voit. Et on aime de représenter une personne. Point de vue peinture. Rembrandt se peint lui-même. C'est la personne du peintre. C'est ça qu'il veut chercher. C'est pas l'individu, pas du tout. C'est la victoire sur la matière, propre à l'artiste. Et Rembrandt conscience qu'il est un artiste, ce qui est pas mal. C'est pas de l'orgueil. Et donc c'est la conscience qu'il est un peintre et un grand peintre. Les artistes ont la qualité de pouvoir dire ce qu'ils sont. Et ils le disent ordinairement bien, avec netteté, en se distinguant des autres. Alors il y a la manifestation, puis il y a la réalité, la personne, la victoire sur la matière. Je crois que vous pourriez très bien dire la personne, c'est la victoire sur la matière. Une victoire qui se fait toujours dans la lutte et dans la conquête. Je ne peux jamais dire que je suis une personne, maintenant ça va, je m'arrête, je n'ai plus qu'à dormir. Je ne peux pas dire ça. Je me fais tout le temps. Et je me fais différemment chaque année. On a conscience de ça. Et on a conscience qu'il y a un haut plateau qui dure un certain nombre de temps où on progresse moins vite. à glisser, à diminuer. Il y a un devenir dans la personne. Il y a un devenir, ça c'est évident. Je deviens une personne. C'est dans une lutte et une conquête. Et après, une défaite. La mort, c'est la défaite de la personne. La métaphysique regarde l'être. suis. Quelles sont les dimensions de mon je suis? Certains regardent le je suis en premier lieu et voudraient par le je suis atteindre l'être. Ils se sont trompés. Il faut regarder l'être et, ayant regardé l'être, regarder le je suis. Alors là, il y a un problème. Que nous avons déjà regardé, mais il est bon de le regarder plusieurs fois. Est-ce que le je suis me permet d'atteindre l'être? Mon je suis est toujours lié à l'individu. Quand je dis je suis maintenant auprès de vous. Et je suis ici pour vous parler, pour essayer de comprendre avec vous ce qu'est mon je suis, en respectant le vôtre. Et si je suis philosophe, si je recherche la vérité, je vois que mon je suis implique l'être. Ah, alors voyez la différence entre le je suis et l'animal. Je peux dire je suis un animal. Et c'est vrai. J'ai une connaturalité avec le singe. Je lui serre la main de temps en temps. Et vous serrez la patte d'un chien. Eh mon brave, je suis, comme toi, un animal. Je suis un être. Je suis un être. Je suis un animal. Entre le sens de l'analogie et nous retombons dans un point de vue univoque. Par exemple, je prends l'exemple. J'étudie en éthique ce qu'est la prudence. J'étudie au plan métaphysique la prudence comme un élément de la personne. Si mon étude était univoque, il y aurait une séparation entre l'éthique et la métaphysique. La métaphysique assume l'éthique. Les éléments même de la personne humaine qui est au terme du je suis, toute étude de la personne se fait dans la lumière du je suis. Quels sont, pour dire je suis une personne, je suis un individu. Je prends ça parce que c'est beau de revenir sur cette distinction et cette opposition que Maritain fait avec véhémence. Personne et individu. Saint Thomas fait cette distinction entre l'individu et la personne. Comment la fait-il? Ah, il l'a fait en voyant que l'individu se prend du côté de la quantité et de la matière, donc du corps. Mon corps, il est matière et il est indie et il est quantité. Il est quantité puisque votre voisin, s'il est énorme, et ça soit surtout quand on est en avion et qu'on doit passer la nuit en avion, et malheureusement, vous aviez le numéro ligne 14 et vous ne saviez pas qu'à côté de vous, vous auriez quelqu'un où il faut deux places. Ça arrive. Vous n'aviez pas prévu du tout ça. C'était un mauvais numéro. À ce moment-là, vous comprenez ce que c'est que l'individu. Pendant toute la nuit, vous réfléchissez sur l'individu. Et vous comprenez que ça prend de la place. Tandis que la personne, il y a à côté de moi quelqu'un normal extérieurement, mais qui pense beaucoup. On vous dira, vous avez voyagé à côté d'un génie. Vous n'avez pas aperçu. Il ne vous a pas dérangé du tout dans votre sommeil. D'un individu remarquable. L'esprit à tout prix. Vous êtes constamment devant le problème de l'individu et de la personne. Mais vous n'y réfléchissez pas. Vous ne saisissez pas la différence qu'il y a entre l'individu et la personne. Mais vous en apercevez très bien. Alors, parmi les éléments de la personne, du « je suis ». Quand vous dites « je suis quelqu'un de distinct des autres et qui a son autonomie. » Premier élément de la personne. Dans le « je suis », j'ai l'autonomie. Quelqu'un qui n'aurait aucune autonomie verrait qu'il est totalement relatif. Est-ce qu'il pourrait encore dire « je suis » ? Je suis relatif. Je suis autonome. J'ai mon autonomie en tant que je suis. Et mon autonomie va jusqu'à mon être. Mon être n'est pas celui de mon voisin. Ça, c'est sûr. vous n'étudiez pas l'être de votre voisin parce que vous êtes très discret. Mais si vous étudiez l'être de votre voisin, vous auriez tout le temps la tête tournée vers lui. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Il prend des notes. Moi, je n'en prends pas, mais lui en prend. Pourquoi? Je suis distingue de lui, quand même. C'est curieux. Il prend des notes. Est-ce que c'est son autonomie qui prend des notes ou sa relation? En tant qu'il prend des notes, est-il autonome? Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Mais vous pouvez réfléchir. Est-ce que ça fait partie de mon autonomie d'écrire des notes? Vous n'écrivez pas des notes comme quelqu'un qui prend un magnétophone, tout. Il prend tout, il prend tout. Il y en a qui prennent tout en note. Ils ont une maladie particulière. Il faut surtout rien rater. Alors, prend tout. Un raccourci, 15 pages, 10 pages. Tout est pris. Il y en a qui en ont un coursé, 10 lignes. Bien passé au crible. Et qu'est-ce qui a permis de passer au crible? De faire que vous avez laissé tomber la moitié du cours. Vous avez pris le reste. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ce discernement? L'individu. La personne. Alors, si c'est la fatigue, au bout d'un quart d'heure, je suis fatigué. Le premier quart d'heure, je prends tout. Et après, je me repose. Et qu'est-ce qui fait cette distinction-là? Un seul individu. Il y a des individus qui n'ont aucune endurance. Ils sont tout de suite fatigués. Il faudrait que le cours soit un cours d'un quart d'heure. Un quart d'heure, ça irait. Mais après un quart d'heure, ça ne va plus. Qu'est-ce qui fait ce discernement? Est-ce la personne ou l'individu? C'est l'individu. Je me fatigue vite. Surtout le matin. Je me fatigue vite. J'ai beaucoup de peine à sortir de mon lit. Parce que on devrait inventer une histoire que l'individu porte son grabat et son lit partout. Au cœur. Ouais, tout va très bien en raison. Au cœur, en cours. On devrait inventer ça, déjà. Un cours avec tous les grabataires. Ça, c'est l'individu. L'individu a besoin d'une chaise. C'est pas la personne. Non. Oui, comme c'est curieux, c'est tout le temps lié. Parce que mon corps est un corps humain. Donc il fait partie de ma personne. Et pourtant, il est limite de ma personne. Je suis limité par mon corps. C'est bien, c'est évident, j'ai un des... Je suis ou assis, ou debout, ou couché. Mais j'ai ces situations nécessaires. Le situs accompagne l'individu. Le situs. Et puis la personne, je pense. J'écris, je prends des notes pour mieux penser. Si mes notes, écrire des notes, m'empêchaient de penser, j'aimerais mieux uniquement penser. Mais si prendre des notes précises, l'attention, est-ce que c'est ce que tu dois faire? Parce que c'est rare qu'on peut suivre. Il faut déjà être très avancé en méditation métaphysique. D'écouter tout d'un coup sans prendre une seule note. Entre deux, il y a un petit roupillon. On dort, puis on se réveille. Et je prends des notes pour être attentif, plus attentif. C'est un élément de sécurité. C'est vrai, c'est un élément de sécurité. Vous voyez, c'est intéressant. Quand je dis un élément de sécurité, mon corps est un élément de sécurité. L'individu me sécurise. Parce que je me pince. Je suis un individu bien discerné. Mais mon imagination... Alors, est-ce que mon imagination fait partie de ma personne? Grave problème. personne. Ah, c'est évident. L'attention. L'attention à un cours. L'individu et la personne sont constamment liés. Je suis fatigué. Ça, c'est l'individu. La personne n'est jamais fatiguée. Et c'est terrible pour la personne de s'apercevoir de la fatigue du corps. De la fatigue de l'individu. Dans le jeu. Fait partie de votre je suis. C'est bien évident. C'est votre guenille, comme dit Molière, mais ma guenille, mes chers, parce que c'est mon corps. Alors en tant que c'est mon corps, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça fait partie de ma situation. Alors, je suis l'autonomie. Métaphysique, c'est le langage du bibliothécaire métaphysicien. Le terme métaphysique a été inventé par les bibliothécaires. Donc ça a une saveur bibliothécaire. Et Aristote lui parlait de philosophie première. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux aujourd'hui parler de philosophie première. C'est plus correct. C'est plus vrai historiquement. Et on est très très sensible à ça. Philosophie première. La philosophie première pour Aristote implique une étude analytique. On analyse par l'induction. Et une étude sapientielle. La découverte de l'être premier. Et quand on fait la découverte de l'être premier, on passe à la sagesse. Et ça est unifié par la recherche de la vérité. C'est la recherche de la vérité qui peut unir les deux. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Et le Saint-Père le rappelle en tant que notre Père et qui veut que ne perdions pas de temps, qui a une continuité. L'autonomie. L'Église n'a pas de philosophe à elle. Vous comprenez pourquoi? Parce que si j'étais le philosophe de l'Église, je serais serviteur de l'Église. Or, si je suis serviteur de l'Église, je suis relatif à l'Église. Si je suis relatif à l'Église, je n'ai plus l'autonomie fondamentale du philosophe. Et c'est ça qui est très beau. Dans cette affirmation, l'Église n'a pas de philosophie propre. De fait, elle incline vers tel philosophe. Elle sait, et elle a raison, de savoir que tel philosophe n'arrivera pas à dépasser le cap. Il restera toujours dans le sensible. Et il restera toujours dans le générique, dans l'animal. Il n'entre pas dans l'esprit. Et l'Église aime le philosophe parce que c'est quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'est l'esprit. Et le philosophe essaie de comprendre ce qu'est l'esprit. La recherche de la vérité. L'esprit n'est parfaitement lui-même que dans la recherche de la vérité. Tant que vous ne recherchez pas la vérité, vous n'êtes pas des êtres spirituels. Je regrette. Vous êtes des animaux supérieurs. Techniciens merveilleux. Vous ne cherchez pas la vérité. On est spirituel. On est des esprits. Quand on recherche la vérité. C'est pour ça que c'est si important que dans l'Église, il y ait des chercheurs de la vérité qui aillent jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la vérité. Et jusqu'au bout de la vérité, c'est atteindre la réalité première. Et la res première, c'est Dieu. Et donc, la recherche de la vérité conduit à se poser la question, existe-t-il un être premier? Ça, c'est essentiel aux philosophes. La recherche de la vérité. Puis, cette recherche de la vérité, elle se fait avec des êtres humains à côté de moi. D'autres personnes qui peuvent rechercher la vérité. Comme c'est si difficile de rechercher la vérité, on va s'appuyer sur le voisin. Pas pour dormir, mais on va s'appuyer sur le voisin pour rechercher avec lui. Et donc, qu'il ait le même désir de vérité. Et dès que je découvre qu'il a le même désir de vérité, ah, on peut marcher ensemble. On marche au même pas. Et on découvre qu'il y a cette relation si extraordinaire que celui qui est et qui recherche la vérité. Mais il peut aussi exister au niveau du compagnon. Le compagnon qui travaille avec moi. Qui travaille dur avec moi. Peut devenir un ami. Il reste longtemps un compagnon. Mais il peut devenir un ami. Alors, quelle différence? C'est que le compagnon, je n'ai pas choisi. Il est à côté de moi. Il a la place A. Numéro 14, A. Alors, c'est justement cet individu énorme. On aimerait mieux tourner autour de lui que de s'asseoir à côté. Parce qu'il y a la moitié de la place. Mais je découvre, il n'en peut rien. Il est énorme, il n'en peut rien. Je découvre que derrière cette colonne, il y a une finesse d'esprit extraordinaire. Et il fait attention. Comme il peut. Et il regrette de prendre telle place. Et vous êtes là pour lui dire, mais non, ça n'a pas d'importance. Pour lui, et pas pour vous, mais poliment, ça n'a pas d'importance. On découvre l'amitié. Et on découvre que l'amitié fait partie de l'éducation affective. L'amitié est essentielle à la personne. Je découvre donc ces trois notes qui sont les trois notes de l'esprit. Autonomie, recherche de la vérité. Et par cette recherche de la vérité, je garde mon autonomie et je l'augmente. Et je peux l'augmenter. Et puis, il y a cette possibilité de débordement sur l'autre, l'ami. L'ami. Au point de départ, il peut être celui qui déborde et qui prend la place. Dès que je découvre l'ami, on est un. Et le débordement n'existe plus. On est très heureux d'avoir voyagé avec lui. C'est mon ami. Mon ami ne prend jamais trop de place. C'était très curieux. C'est le prochain. Qui doit devenir mon ami, mais qui avant, c'est celui qui m'arrête. C'est celui qui. Mais qui c'est ennuyeux d'avoir rencontré. Parce que j'ai pas le temps. Vous voyez, il m'ennuie toujours, le prochain. C'est celui qui s'impose à moi. L'individu autre. Et puis qui devient une personne amie. Vous n'êtes jamais ami d'un individu. Il n'y a que l'animal qui est l'ami d'un individu. Et le vieux dicton latin, soit l'âne fréquente l'âne. Alors, ça s'applique de diverses façons. Le paresseux fréquente le paresseux. Jamais celui qui est très actif et très donné, parce qu'il serait pour lui une leçon perpétuelle. On se dévoile par l'ami. Et l'ami se dévoile à son ami. Vous voyez donc, troisième dimension, quatrième dimension, celle qu'on a commencé d'aborder. La prudence. Chez les anciens, la prudence était une sagesse pratique. Pourquoi? Parce que le propre du sage, c'est d'ordonner. Et le propre de l'homme prudent, c'est d'ordonner. Il connaît ses faiblesses. Il connaît ses qualités. Il connaît ses relations. Il connaît et il organise tout cela en vue d'atteindre son bien. En vue de découvrir l'ami, les deux finalités. Je suis prudent pour découvrir un ami. Je suis prudent pour contempler Dieu. Alors tant que je n'ai pas découvert Dieu, ma prudence naît à partir de l'amitié. Il faut voir le lien entre eux. Il y a un lien très grand entre l'amour d'amitié et la prudence. Vous ne comprenez philosophiquement ce qu'est la prudence que dans la lumière de l'amour d'amitié. Ça, c'est un regard métaphysique au niveau de la personne. Au niveau éthique, comment vous regardez la prudence? Au niveau éthique, vous regardez la prudence comme ce qui va me permettre de réaliser pleinement toutes les richesses que j'ai pour développer parfaitement l'individu que je suis. Commencez à apprendre à conduire une voiture de sport qui vous a été donnée. Puis vous foncez, celui qui est à côté de vous et qui vous enseigne la conduite. Vous dites attention, prudent, prudence. Il vous dit ça tout de suite. Et ce brave homme n'a pas fait de philosophie. Il dit prudence. Et là, vous dites, quoi? Je n'aime que la vitesse. Oui, mais c'est pas la question. Il faut que ça dure. Si vous n'aimez que la vitesse, ça va pas durer. Vous allez vous faire coincer par le gendarme. Vous allez avoir des accidents. Voyez, cette idée de durée, il faut que ça dure. La prudence est très liée à ce capital de richesse qu'a l'individu. Nous avons tous un capital de qualité. Et le tout, c'est de les utiliser, de les exercer toi-même. Et connais-toi toi-même, c'est le vieux dicton. Socrate, Solon. Faut se connaître. Vous ne pouvez pas être prudent si vous ne vous connaissez pas. Donc, voyez, au point de vue éthique, la prudence apparaît comme la clé de voûte qui ordonne toutes les capacités et qui les ordonne en vue d'une fin à acquérir. Quelle est cette fin à acquérir? Ah, cette fin à acquérir, c'est l'amitié. L'amour d'amitié. C'est la recherche de la vérité. Et alors j'ordonne ce capital de vie qui est en moi en vue de ça. Je ne le dépense pas n'importe comment. Ça, c'est l'imprudent. Dans une lumière métaphysique dans laquelle nous nous plaçons. Dans une lumière métaphysique. Je dis que la prudence est un élément essentiel à la personne humaine. Et je porte, on dirait, un jugement de valeur sur la prudence. La prudence, ce n'est pas n'importe quelle vertu. Parmi les vertus, c'est la vertu. C'est la vertu dominante. C'est la vertu qui permet d'organiser toutes les autres vertus. C'est la vertu qui est gardienne de mon amour d'amitié. C'est la vertu qui me permet d'acquérir l'amour d'amitié de mon ami, de celui que je désire qu'il soit mon ami. La prudence, c'est quelque chose de très grand. Elle unifie d'une amitié qui avorte, une amitié qui se termine en queue de poisson. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On dit à son ami, oui, depuis un certain temps, tu n'es plus le même pour moi. Je ne sais pas ce qu'il y a. Vaut peut-être mieux plus se voir. Mais dès qu'on se voit, on s'attrape. C'est idiot. Il n'y a aucune raison. Tu n'as pas changé, j'ai pas changé. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de prudence. Pas simple. On n'a pas su aménager le paquet de sel qu'on avait. Elle a tout fourré dans la soupe. À ce moment-là, ça, c'est imbuvable. Et l'amitié devient imbuvable. La prudence est là pour éclairer. C'est une vertu intellectuelle. C'est pour ça que c'est une sagesse. Pour éclairer cette opacité de mon affectivité. Ça éclaire mon affectivité. froncer affectivement, voire vous embrasser, celui que vous aimez, mais vous avez un mètre de plus, à vous l'embrasser de telle façon qu'il ne peut plus respirer. Alors, la fois suivante que vous le rencontrez, attention, j'ai pas envie de périr dans tes bras. Je ne t'aime pas encore assez. La prudence rend lucide l'affectivité qui... L'affectivité par elle-même n'est pas lucide. C'est ce qu'on dit tout le temps, tu vois, quand on dit que l'amour est aveugle. C'est ça qu'on veut dire. Et l'affectivité au niveau amitié devient demande d'être lucide. Alors, il y a deux grandes lumières. Quand l'amitié existe, l'ami éclaire l'affectivité de son ami. Oui. Mais il l'éclaire comment? Et vous-même, l'ami cherche à éclairer son affectivité. Comment se fait-il que je suis amicabilis? Je suis capable d'attirer l'amitié. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça dure si